Silence.
Et bienvenue sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM www.re2m.org. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, je te sens très en forme.
Oui, comme d'habitude, on est en forme à l'antenne de Radio Entre deux Mers.
Ah, oui.
Et dans cette conversation, on vient parler du cinéma et de ce qui se passe dans les salles obscures pour les sorties, mais c'est de ce qui se passe également autour du cinéma.
Ah bah attends, j'ai pas dit bonjour à nos chers auditeurs aussi, quand même.
Mais je vais te laisser dire bonjour. C'était juste pour leur dire un peu ce qui se passe dans cette conversation.
Ouais, merci Damien. Non mais bonjour chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. Voilà, on est très contents de vous retrouver, comme vous le savez. Moi je le dis à chaque fois parce que bon, j'ai envie de le dire, qu'on est très contents d'être avec vous. Alors oui, tu voudrais quand même quelques mots sur le festival, je suppose.
Eh bien en fait, comme tu avais annoncé la semaine dernière qu'aujourd'hui on présenterait le palmarès du plus grand festival de cinéma qui vient de s'achever dans le sud-est de la France, du côté de Cannes. Donc le festival de Cannes vient de se clôturer pour sa 75e édition. Et donc, quel est ce palmarès? Peux-tu nous le présenter, s'il te plaît?
Oui. Alors évidemment, la cérémonie, on le redit, était présentée par Virginie Efira, hein, qui a été très riche en rebondissements, cette cérémonie justement. Et après, on nous dit qu'après un hilarant discours introductif de Vincent Lindon, le président du jury de cette nouvelle édition, les récompenses sont enchaînées et de grands noms du cinéma sont venus les remettre aux côtés des membres du jury, Guillaume Canet, Carole Bouquet, Diane Kruger, Javier Bardem et bien d'autres. On vous laisse découvrir, justement, c'est ce qu'il nous disait le palmarès. Eh bien, je l'ai découvert. Alors, la Palme d'Or, on va commencer par le prix suprême. La Palme d'Or, donc, a été remportée par Ruben Östlund, qui est un réalisateur suédois. Et c'est Alfonso Cuarón, d'ailleurs, le cinéaste Alfonso Cuarón qui lui a remis. C'est pour son film Triangle of Sadness. Alors, en français, vous allez souvent le voir plutôt avec le titre Sans filtre. Ça, c'est le titre français. Sinon, c'est The Triangle of Sadness. Alors, il faut savoir que c'est une comédie dramatique, un drame. Il y a de la comédie. Alors, le Triangle of Sadness, moi, je me demandais ce que c'était. Eh bien, c'est le petit muscle de forme triangulaire qui est situé entre les sourcils. Voilà. Alors, comme les modèles doivent froncer pour faire les poses fashion, par exemple, eh bien, ils tirent. On a l'impression qu'à chaque fois, ils font la tête, mais parce que il faut faire attention, parce que ça marque ce petit triangle, se marque entre les sourcils. C'est un endroit, d'ailleurs, qui est particulièrement prisé des injections de Botox pour corriger certaines rides disgracieuses. Alors, c'est le triangle, en fait, de la tristesse. Quand on traduit le titre, c'est le triangle de la tristesse. Voilà. Et le film est une satire au vitriol des ultra-riches dans le cadre d'une croisière de luxe. Donc, c'est Ruben Östlund, on avait l'habitude, hein, c'est pas son premier prix, puisqu'il avait déjà eu en 2017 il avait déjà eu droit. Donc c'est quand même, c'est, ça dure 2h30, ce film-là. Alors c'est une croisière hein, pour les super riches qui coule, laissant quelques survivants, dont un couple de célèbres mannequins piégés sur une île. Alors, la, donc je disais que sa première palme d'or à cet homme-là, c'était en 2017 pour The Square, qui était une comédie dramatique. Ruben Östlund, il a 38 ans, il est donc monteur également, hein, scénariste, réalisateur suédois. Il a 15 ans de carrière, 11 tournages à son actif, 3 prix, 38 nominations. Donc là, dans ce film de la Palme d'Or, on a Charlie Dinkrich, c'est une actrice sud-africaine. On a Harris Dickinson, c'est un acteur britannique. On a Woody Harrelson. Ah, on est content de retrouver Woody Harrelson, acteur américain très célèbre. On a Oliver Ford Davis, qui est un Britannique, et Iris Berben dans les rôles principaux de ce film, donc The Triangle of Sadness ou Sans filtre, titre en version française. Donc la Palme d'Or, il l'a eu, voilà. D'ailleurs, Vincent Lindon disait que quand le jury choisissait, hein, quand le jury voulait donner cette Palme d'Or, ils ont ce film-là, ils disaient qu'ils ont été fascinés, choqués par ce film, mais côté positif. Hein. Voilà, donc, ils ont eu envie qu'il ait la Palme d'Or. Tout le jury, apparemment, était absolument d'accord, enfin, tout le monde, tout le jury était d'accord pour donner cette Palme d'Or à Ruben Östlund. Ensuite, il y a un grand prix. Alors, le grand prix, il y a eu ex aequo, là, entre Lucas Dont et Claire Denis. On la connaît, Claire Denis, grande réalisatrice française, Lucas Dont aussi, d'ailleurs. Donc, elle, pour lui, c'est Close, le titre du film, et pour elle, c'est Stars at Noon. C'est donc le grand prix. Il y a eu un prix spécial du 75e anniversaire. C'est Tori et Lokita, c'est le titre du film de Jean-Pierre et Luc Dardenne, les frères célèbres, les grands réalisateurs, les Dardenne. Le prix du scénario est allé à Boy from Even de Tariq Saleh. Alors Tariq Saleh, c'est un réalisateur égyptien. Enfin, il est égypto-suédois en fait. Il est né en Égypte, mais il est suédois. Il a 50 ans, 12 ans de carrière, 9 tournages. Et donc là, le scénario pour Boy from Even. Et puis, prix de la mise en scène, c'est Decision to Leave de Park Chan-wook, qui est un réalisateur sud-coréen. Il a 29 ans. Il a 22 tournages à son actif. Voilà, il a 29 ans de carrière. Il voudrait bien avoir 29 ans. Il a 58 ans. Il n'est pas très âgé non plus. Et 22 tournages. Voilà. Prix d'interprétation masculine. Ben, il est allé à Song Kang-ho, qui est un acteur sud-coréen, pour sa prestation dans le film de Hirokazu Kore-eda qui s'appelle Broker. Voilà, Hirokazu Kore-eda, c'est un réalisateur japonais. Il a 30 ans de carrière, lui, 33 tournages à son actif. Il a 59 ans, il a commencé très, 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 très jeune. Et le prix d'interprétation féminine, c'est Zahr Amir Ebrahimi, qui est une actrice franco-iranienne. C'était pour sa prestation dans Les Nuits de Mashhad, d'Ali Abazi, qui est un réalisateur scénariste irano-danois. Et puis, il y a le prix du jury qui est allé pour le film Les Huit Montagnes de Charlotte van der Mersch et Félix von Groningen, qui sont, voilà, ce sont des réalisateurs, réalisatrices belges. Elle, Charlotte, elle a 38 ans, 13 ans de carrière. Et lui, il a 21 ans de carrière, réalisateur belge également. Voilà, ils travaillent ensemble, ça se passe plutôt bien, donc ils ont le prix du jury. Et puis, il y a eu également la Palme d'Or d'honneur est allée à Forrest Whitaker, qui est un acteur américain. Il a quand même 129 tournages à son actif, 8 prix et 15 nominations. Tu vois qui c'est, Forrest Whitaker, Damien,
oui,
je pense.
Oui, tout à fait, oui. Un acteur charismatique.
Oui, 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 c'est lui qui a eu cette Palme d'Or d'honneur. Voilà. Bon, ben là, on a dit à peu près l'essentiel, hein, je pense. Voilà, les prix importants. La plupart étaient des personnes qu'on ne connaît pas très bien, et ça tombe bien parce que là, on va pouvoir faire connaissance. Parce qu'en principe, quand ils ont des prix comme ça, après, les gens vont au cinéma et essaient de voir ces films, justement, qui ont remporté des prix, pour essayer de connaître un peu mieux les réalisateurs qui viennent du monde entier. Là, il y en a d'un peu partout. Et donc, c'est quand même le côté intéressant. C'est bien. Et il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a dit, il y a une actrice ou une réalisatrice, ah ben c'est Claire Denis, qui a dit à un moment donné que, en fait, le cinéma, c'est quand même d'aller dans une salle de cinéma, de s'installer dans une salle, de regarder sur grand écran au milieu de tout le monde, quoi, au milieu des autres. Elle disait que c'était ça le cinéma. Et elle a ajouté, le cinéma, c'est pas être sur son canapé, enfin dans son canapé en regardant sur un petit écran. Pour elle, c'est pas ça le cinéma. Elle dit que c'est la salle de cinéma. Et nous qui parlons souvent, n'est-ce pas, Damien, des salles de proximité qu'on aime énormément, et voilà, on espère qu'elles vont perdurer encore longtemps, ces salles de proximité dont on a absolument besoin. Ben voilà, c'est d'aller dans la salle et de regarder un film avec l'atmosphère de la salle, et puis cet écran immense, et puis les autres spectateurs. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je suis un peu d'accord avec Claire Denis quand même.
Je suis bien d'accord aussi, oui.
Bon, ben voilà, j'espère que je n'ai pas trop mélangé les... Non, c'était, ça allait à peu près, parce que là, j'ai voulu aller un petit peu plus rapidement. Bon, parce qu'on a entendu à la radio, sur plein de chaînes, hein, on a pu cette année entendre et voir tout ce qui se passe au Festival de Cannes. Ils ont mis le paquet cette année, parce qu'effectivement, les deux dernières années, avec le confinement, la Covid, tout ça, ça a été... Bon, ben voilà, le Festival de Cannes avait été un peu escamoté. Il existait, mais il n'y avait pas de spectateurs, quoi, quasiment.
Oui. Donc, et puis, il a été décalé, voilà, pour avoir lieu quand même. C'était, voilà, compliqué. Mais bon, c'est reparti. Et on te remercie paquet, voilà, pour ce palmarès.
Oui. Bon, ben oui, de toute façon, tout le monde le connaît déjà à peu près. Hein, donc...
Et donc maintenant, nous allons présenter les films qui sortent cette semaine dans vos cinémas, en débutant par un film français de Clovis Cornillac. Alors, on le connaît en tant qu'acteur, un peu moins en tant que réalisateur, et il sort, c'est magnifique. Alors, peux-tu nous présenter ce film, s'il te plaît ?
Oui, alors c'est magnifique, c'est une comédie et c'est fantastique également. Ah ben oui, Clovis Cornillac, il se lance dans le fantastique. Réalisateur, scénariste, oui, tu l'as dit, il est acteur français. Il a 53 ans, 37 ans de carrière, parce qu'en fait, il a quand même, pendant ses 37 ans de carrière, il y a eu 96 tournages, ouais, il a eu ça à son actif, évidemment, comme acteur, hein, il a énormément joué. Donc, effectivement, il a eu 7 prix, 18 nominations comme acteur également. Et là, il a travaillé avec Lilou Fogli et Tristan Schulman, qui sont deux scénaristes qui ont l'habitude, hein, de travailler avec lui. Donc, on va rappeler quand même, entre 2014 et 2020, il a réalisé 4 longs métrages. Il y a eu en 2014 un peu beaucoup aveuglément, une comédie romancée avec Mélanie Bernier. Il était lui le héros, Clovis Cornillac, dans ce film. C'est l'histoire, il y a deux appartements, chacun d'eux se trouve dans un appartement, mais le mur qui sépare les deux appartements est si mince qu'ils entendent absolument tout ce qui se passe chez l'autre. Alors comme ce sont deux personnages introvertis, ça va être un peu compliqué. Il y a une belle histoire d'amour quand même. Enfin, c'est joli, un peu beaucoup aveuglément, sorti en 2014. Et puis, il y a eu 2016, il a réalisé 4 épisodes de la série Chef, la saison 2 exactement d'ailleurs. Et puis, il y a eu aussi, il y a eu aussi en 2022, en novembre 2022, mais on en avait parlé, Couleur de l'incendie. C'est un drame adapté de Pierre Lemaître avec Léa Drucker. Il y avait Benoît Poelvoorde aussi dans ce film. Voilà. Mais je sais pas. Oui, il était. Ah ouais, il était... Non, il n'est pas sorti. Non, celui-là n'est pas sorti. Mais oui, je l'avais noté dans les films qui doivent sortir. On en parlera à ce moment-là. C'est l'histoire d'un empire financier. Et puis, il y a un empire financier. Ensuite, il y a une ruine. C'est la ruine de cet empire. Et il y a une reconstruction, la reconstruction d'une vie. Ce sera certainement un film intéressant. Mais oui, dans celui-là, je l'avais mis dans ceux qui ne sont pas encore sortis, mais qui devraient sortir quand même en 2022. On en reparlera à ce moment-là, Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac. Alors, c'est magnifique. Le film a fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez, hein, et il a été présenté au Festival d'Angoulême en 2021. Il dure 1h37. Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Tu sais ce que c'est un hibiscus,
Oui, c'est une
Damien?
plante, oui.
C'est beau, c'est magnifique un hibiscus.
Oui.
Oui. Lorsque c'est, bon, j'aimerais bien qu'on m'en offre un. Lorsque ses parents disparaissent, c'est tout son univers qui bascule. Il découvre qu'il a été adopté. Et il doit survivre dans une société moderne qu'il n'a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d'Anna, qui, touchée par la bienveillance de cet homme, pas comme les autres, accepte de l'aider. Mais à mesure qu'il progresse dans son enquête, Pierre se décolore, comme par enchantement. Alors Clovis Cornillac, ben c'est Pierre. On a Alice Paul qui joue le rôle d'Anna. On a Manon Lemoine, on a Lilou Fogli, hein, qui est scénariste mais qui est actrice aussi dans ce film. On a Laurent Bateau, Gilles Prival, Alexandra Roth, qui y a Félicie Fontaine aussi, Myriam Boyer. Alors Myriam Boyer, c'est la maman de Clovis Cornillac. Dans la vie réelle, c'est sa maman, grande comédienne. C'est bien qu'elle soit dans ce film, c'est tout à fait... C'est très sympathique. Alors, en fait, c'est une histoire qui parle de l'identité et d'un personnage caméléon qui pourrait se fondre dans n'importe quelle communauté de manière totalement instinctive sans jamais savoir qui il est. C'est ça l'histoire. Il est bienveillant, cet homme, il est simple et il ne s'est jamais confronté à la société moderne. Alors, on a de quoi réfléchir, hein, avec ce film sur notre propre société. Au fur et à mesure, donc, Pierre, le héros, perd ses couleurs. Il devient sépia, puis noir et blanc, et enfin translucide. Et oui, le film est un conte moderne. Alors, le tournage, pour ceux que ça peut intéresser, s'est déroulé à Lyon. C'est la ville natale de Clovis Cornillac. Il dit d'ailleurs que l'architecture de Lyon lui rappelle l'Italie du Nord. Très jolie, très belle architecture, l'Italie du Nord, c'est quand même un bel exemple. Voilà, c'est magnifique. Et tu avais une bande-annonce, je
Et
pense,
oui,
non?
j'ai une bande-annonce que l'on écoute tout de suite.
Merci.
Tes parents m'avaient donné cette enveloppe, au cas où il leur arriverait malheur. T'es jamais allé nulle part.
Tu as été abandonné dans ton couffin sur le palier de notre porte.
Ah bon? Qui je suis?
Si vous aussi, vous voulez savoir qui êtes-vous, vous posez les bonnes questions.
Vous n'avez jamais été salarié? Jamais payé d'impôts? Officiellement, vous n'existez pas.
Si, j'existe.
Mais comment? On me demande tous trois mois de loyer. Dites-moi.
Excusez-moi, je ne sais pas qui sont mes vrais parents. Vous pouvez m'aider?
Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents.
Ouais.
À top là.
La vie est là.
C'est elle, c'est sûr. Vous êtes ma mère.
Pardon. J'ai rencontré quelqu'un.
Un garçon?
Il est spécial, mais il est très gentil.
Oui, c'est un coup de foudre.
C'est monsieur?
Oui. D'accord que c'est impossible.
En tout cas, c'est pas une jaunisse. Il y en a qui perdent leurs cheveux, lui, il perd ses couleurs.
Demain, il faudra que je pose les bonnes questions pour savoir qui je suis.
Quoi, ces fleurs? C'est magique.
On la retrouvera peut-être, ta mère.
Faut y croire. Pierre, il veut juste savoir d'où il vient.
C'est important, la famille.
Tu sais, l'important, c'est pas d'où on vient.
C'est ce qu'on devient.
Voilà, c'est magnifique, le dernier film de Clovis Cornillac qui sort aujourd'hui au cinéma. Et maintenant, nous allons retrouver un autre film. Alors, peux-tu nous dire de quoi parle Compétition officielle de Marianne Ocon?
Oui, c'est marrant le titre, hein. Après le festival, ça fait curieux. Compétition officielle.
Ça sort juste après, ce n'est peut-être pas pour rien, alors je ne sais pas de quoi il parle.
De quoi il parle? Alors, il y a 3 nominations quand même à la Mostra de Venise 2021. C'est une comédie qui dure 1h54. Et tu l'as dit, Mariano Cohn, c'est un réalisateur, scénariste, créateur argentin. Il a 46 ans, 21 ans de carrière, 10 tournages pour lui. Et il a un prix et 7 nominations. Alors, en 2017, il avait eu le Goya du meilleur film étranger en langue espagnole pour le film Citoyen d'honneur. Il y avait 3 nominations également. C'était Oscar Martinez et Nora Navas qui jouaient dans ce film. Et il n'y a pas que lui. Là, c'est une co-réalisation. Et oui, j'avais noté, qu'il y avait aussi Gaston Duprat qui travaille avec Mariano Cohn, qui est un réalisateur, scénariste, créateur argentin également, qui a 53 ans. Et ils travaillent ensemble tous les deux depuis 25 ans. Ils ont réalisé 10 films ensemble. Mais oui, j'avais oublié de le noter, ça, Damien, qu'en fait, ils étaient deux et qu'ils travaillaient ensemble depuis très longtemps.
Eh oui.
Eh bien oui, oui. Alors, Citoyen d'honneur, qui avait été très primé, donc, avec ce Goya, c'est un joli prix, ça. C'était l'histoire d'un écrivain qui a obtenu le prix Nobel de littérature, qui revient chez lui pour être citoyen d'honneur et qui retrouve les habitants dont il a parlé dans ses livres d'une façon pas toujours très sympathique. Chouette film, celui-là, on peut l'avoir en DVD dans sa vidéothèque Citoyen d'honneur, sorti en 2017. Franchement, quoi. Et là, alors, Compétition officielle, c'est l'histoire d'un homme d'affaires, milliardaire, qui décide de faire un film pour laisser son empreinte dans l'histoire. Il engage alors les meilleurs du moment, la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Ivan Torres. Mais si leur talent est grand, leur égo l'est encore plus. Évidemment, ça va provoquer de sacrés problèmes. Alors, on a Penélope Cruz qui joue Lola Cuevas, belle et talentueuse. On a Antonio Banderas, cet acteur extraordinaire espagnol qui joue Félix Rivero. Et on a Oscar Martinez. Et j'ai parlé d'Oscar Martinez pour le film Citoyen d'honneur, justement. C'est un acteur qui est très, très, très reconnu en Argentine. Et donc, c'est un grand acteur là-bas. Donc là, il est là aussi. Il joue Ivan Torres. Ivan, je ne sais pas pourquoi je dis Ivan. Ivan Torres, voilà. Et puis, on a José Luis Gomez dans les rôles principaux. C'est un chouette casting quand même. Alors, le film, en fait, est structuré autour des répétitions préalables au tournage d'un film. Voilà ce que c'est. On peut voir ici, par exemple, tout ce que font les acteurs pour faire pleurer, pour faire rire, et pour générer de l'émotion. Les deux réalisateurs nous disent que le film se penche sur cette relation complexe et extraordinaire, généralement cachée à la vue du grand public. Il s'agit d'un cours magistral sur la manière dont les 3 acteurs au centre du film construisent l'émotion. C'est vrai qu'on ne voit jamais ça. Le public ne voit jamais comment travaillent les acteurs pour nous faire rire, pour nous faire pleurer, etc. et pour amener l'émotion. Et là, on voit tout ça dans ce film, justement, Compétition officielle. C'est le grand intérêt de ce film. Mais c'est une comédie, donc ça va, ça se passe bien. Voilà, Mariano Cohn et Gaston Duprat, nos 2 réalisateurs argentins.
Pour Compétition officielle, et maintenant, ça va être le réalisateur Christos Masala, qui, lui, nous propose le film du nom de Broadway.
Ah oui, alors
Broadway, est-ce qu'on va dans le quartier new-yorkais?
Ah ben voilà, on voit Broadway, on se dit chouette alors. Ben non, c'est pas du tout ça. Broadway, c'est un drame qui dure 1h37. Alors il est grec, c'est grec, ce film, c'est français et c'est roumain. Hein, tout le monde s'y est mis. Il y a un avertissement, hein, des scènes, des propos et des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ça, on le note. Et c'est son premier long métrage à Christos Massalas. Et oui, réalisateur, scénariste, chef décorateur. Il est grec et il a 36 ans. Ah, c'est bien. Et alors, il a déjà, bon, il a réalisé des courts-métrages hein, à partir de 2017, voilà, qui ont très bien marché. Il y a Copaloca, par exemple, son court-métrage qui a eu une nomination à la quinzaine des réalisateurs en 2017. Voilà. Et à partir de là, il a pu se lancer pour son premier long-métrage. Alors, Broadway, ben, on va voir ce que c'est, ce Broadway. Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, qui est un complexe de loisirs abandonné d'Athènes et qui est squatté par une bande de pickpockets. Aïe, 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 on s'éloigne du rêve Broadway, États-Unis. Elle intègre leur groupe et ils mettent au point une nouvelle combine. Nelly donne un spectacle de rue pour distraire les passants, tandis que les autres subtilisent les portefeuilles et les téléphones portables. La combine marche bien. Et Nelly devient indispensable. Mais l'arrivée d'un homme mystérieux, blessé et couvert de bandages va bouleverser leur vie à tous et le cours des choses à Broadway. Voilà ce qu'était Broadway. Donc, on a des acteurs ben, grecs. On a Elsa Lukaku, qui a le rôle de Nelly. On a Favos Papadopoulos. On a Statis Apostolou. Raphaël Papad dans les rôles principaux. Ils sont connus là-bas chez eux, hein. Ce sont des acteurs qui marchent bien. Alors, en fait, la cachette de ce gang-là, pour savoir où elle était, quoi, quelle serait cette cachette, Christos Massalas, donc, il y a réfléchi, voilà, en écrivant le scénario. Bon, il a commencé à errer dans le centre-ville d'Athènes, à la recherche d'espaces et d'entrepôts abandonnés. Et puis voilà, ils ont fini par trouver. Alors, il nous dit, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un tel trésor caché au centre d'Athènes. C'était génial et un peu métaphysique. Que l'espace s'appelle Broadway, là quand même. J'ai donc décidé d'y baser l'histoire et de faire de cet endroit une co-star du film. Voilà. Et puis là, il a commencé à réimaginer l'espace dans son esprit, de telle sorte qu'ils ont dû construire, en fait, de A à Z, le Broadway du film, sur la base du vrai Broadway. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il existe vraiment cet endroit. Alors, le réalisateur nous dit que Athènes, pour lui, c'est à la fois sombre et coloré, c'est bestial, c'est parfois en ruine et c'est parfois en cours de restauration. Voilà ce qu'il nous dit de ce tournage à Athènes. Et ce qu'il pense d'Athènes, bon, c'est relativement sympa quand même. Hein. Alors, il a fait des études à Londres, réalisateur, et quand il a remis les pieds à Athènes, eh ben tout lui a semblé infini. Voilà. Ce qui rendait la ville gigantesque, dit-il, c'est peut-être le manque de cohérence, le fait de ne jamais savoir quelle image on va rencontrer dans la prochaine ruelle et de ne pas savoir ce qui peut vous arriver. Il a réalisé en faisant un retour en arrière à quel point tout est plus petit. Et finalement, c'était un défi créatif. Voilà. Comment capturer sur la pellicule la sensation de la mégalopole de mon esprit, dit-il, alors que la réalité est beaucoup plus tangible. Voilà, c'est donc... Alors, il parle des acteurs, il nous dit que Favos Papadopoulos, là, qui est un des héros de l'histoire, a dû supporter physiquement une transformation totale qui a nécessité un régime spécial et beaucoup de privations. Quant à Statis Apostolou, qui est un autre héros du film, il a dû faire un autre type de transformation, moins physique, mais qui a demandé de la recherche. Voilà. Et Raphaël Papad jouait en tant qu'acteur pour la première fois de sa vie. Donc, tous les acteurs avaient des défis à relever. Et ça intéressait beaucoup le réalisateur, justement, pour son premier long métrage. Voilà ce qu'on sait sur Broadway, en tout cas. Ben, mes chéris, si un jour vous allez à Athènes, hein, demandez où se trouve cet endroit. et on vous le dira sûrement. Broadway, eh oui.
Broadway de Christos Massalas.
Ouais, premier long métrage, bravo. Un film à voir.
Donc à retrouver dès aujourd'hui au cinéma, tout comme Clara Sola, une réalisation de Nathalie Alvarez-Messen.
Oui, Clara Sola, c'est un drame. Alors c'est suédois, c'est belge également, allemand. Il y a le Costa Rica qui s'y est mis, les USA également. Hein, tout le monde y est là, 1h46. Il y a 2 nominations à la quinzaine des réalisateurs 2021 et il y a une nomination au Festival de Cannes. C'est Nathalie Alvarez-Messen, tu l'as dit, réalisatrice, scénariste. Elle est costaricaine et elle est suisse également. C'est son premier long métrage, c'est pour ça que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Elle a déjà réalisé des courts métrages en Suède et aux États-Unis qui ont très bien marché. Donc, elle se lance dans le premier long métrage. Elle a trouvé le producteur, tout ce qu'il fallait pour pouvoir nous réaliser ce Clara Sola. C'est quoi ? C'est dans un village reculé du Costa Rica. Une femme de 40 ans, renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel. Alors, on a Wendy Chinchilla Araya, qui est une costaricaine, qui est le rôle principal. On a Daniel Castañeda Rinson, qui est un costaricain. On a Flor Maria Vargas Chavez. Il n'y a que des costaricains, là. Voilà, des acteurs costaricains, costaricaines. Et puis, on a Ana Julia Porras Espinoza dans les rôles principaux. Ils ont des noms très longs, hein. C'est très curieux, les noms du Costa Rica.
Mais c'est souvent qu'en fait, ils ont le nom du père et de la mère. Donc, du coup, oui. Ça fait un double un nom de famille.
Le Portugal. C'est un peu comme ça aussi, le Portugal, je crois. Hein.
Les Espagnols, notamment.
Oui, les Espagnols, oui. C'est marrant. Ouais,
ça pourrait être pareil en France.
Bien sûr. Ben oui, ce serait amusant.
Ben oui.
Enfin, voilà. Et donc, Clara Sola, Nathalie Alvarez-Messen, la réalisatrice, elle vient d'une famille nombreuse, mais principalement composée de femmes, d'ailleurs. C'est ce qu'elle nous dit. Mais malgré ça, il y a des normes patriarcales qu'elle qualifie de malsaines sur la façon dont une femme devrait ou ne devrait pas se comporter et ça lui a été transmis, quoi. Alors, elle nous dit que parce que ces normes sont irréalistes, nous ne sentons jamais que nous en avons assez. Ouais, là, j'ai un peu... J'ai eu beaucoup de mal à m'extraire de cela, dit-elle. J'y travaille toujours, parce qu'il fait partie du rôle que je suis censée assumer, c'est-à-dire réussir dans cette société. Voilà. Donc, elle est toujours en bataille pour s'extraire de tout ça, quoi. Puisqu'elle le dit, ça dure toujours. Elle n'a pas fini son chemin là, de libération, si on peut dire. Alors, elle a situé l'histoire du film dans un village costaricien. Alors, elle désirait retourner au Costa Rica pour y tourner son premier long métrage dans sa langue maternelle, qui est l'espagnol. Elle voulait ça. Parce qu'elle savait, nous dit-elle, que des choses intéressantes se produisaient dans l'industrie cinématographique de ce pays, grâce à de nombreuses réalisatrices aux œuvres excitantes et reconnues internationalement. Mais le plus important, c'est que l'imagerie a été inspirée par des souvenirs d'enfance de là-bas. Alors, le film est situé dans un lieu fictif, qui se rapporte esthétiquement à de nombreux endroits en Amérique latine. Et elle ajoute que comme elle est aussi suédoise, nous y avons ajouté quelques touches scandinaves discrètes, ça et là. C'est ce qu'elle nous confie. Elle dit d'ailleurs que c'est aussi très costaricain. Pendant un an, elle et son équipe, ils ont réalisé des repérages avant de décider que le tournage se ferait à Varabianca. Et là, il y a la maison de Clara. Ils ont trouvé la maison de Clara et la majorité des autres emplacements. C'est une ville brumeuse, dit-elle, Varabianca, mais apaisante, à environ 1900 mètres d'altitude. Donc, nous sommes tombés amoureux de l'endroit, de la nature et des gens. Ça vaut le coup, rien que pour voir justement ce lieu, précisément, dans ce film. C'est intéressant. Moi, je trouvais que c'était un joli premier long-métrage, Clara Sola.
Et voilà. Maintenant, nous retournons en France avec un film de Tatiana Becquet-Genel qui s'appelle « Cérémonie secrète ».
Oui, « Cérémonie secrète ». Alors, oui, tu l'as dit, la réalisatrice Tatiana Becquet-Genel, c'est une réalisatrice chef monteuse. Elle est directrice de la photographie. Elle est actrice également, c'est une Française. Et c'est l'histoire de Rachel. C'est drame, attends, j'ai pas dit, c'est drame fantastique, c'est français, ça dure 1h20. Donc, Rachel, la trentaine, est avocate, fille adoptive d'une grande famille de magistrats, dominée par Maxime, impitoyable et étrange procureur. Malgré cette atmosphère familiale pesante, elle n'a pas quitté le monde de l'insouciance. Elle s'affranchit en s'abandonnant à d'étranges rêveries, entremêlées de fantasmes et de cauchemars qui la conduisent à s'émanciper de son milieu. La réalité d'une affaire va heurter sa vie. Anna, sa cliente, s'est suicidée en prison. Devant le cercueil de cette femme, tout lui revient. Le parloir, la scène de crime, le récit d'une vie malmenée. Enfant, elles habitaient dans le même village. Comme dans un conte, la grille d'un château les séparait. L'une était une petite fille pauvre, l'autre une petite fille riche. Commence alors pour Rachel un voyage intérieur où se confronte une lutte des classes impitoyables, une émancipation sociale et sexuelle difficile. La vérité sur la relation entre l'avocate et la prévenue se dévoile et contraint Rachel à faire face à ses obsessions, à son homosexualité refoulée, à ses choix hasardeux et à la cruelle réalité. Sous la forme d'un conte, c'est une réflexion sur une société en perte de repères et en conflit que tous ces personnages nous montrent. Cérémonie secrète, c'est donc avec... la participation de Michel Bouquet. Ouais, il participe au film... Cher Michel Bouquet, on a Kasia Wolf, on a Valérie Moinet, on a Justine Chardin-Lecoq, Vincent Gagné, Jeanne Brochet. Voilà, Michel Bouquet, oui, qui participe, qui nous a quittés, hein, je le rappelle, le 13 avril 2022 à 96 ans. On lui avait réservé un hommage, n'est-ce pas, Damien, à ce moment-là,
oui,
sur Radio Entre deux Mers. Oui. Alors ça, cérémonie secrète, donc c'est une histoire de fantômes, de famille, d'amour, c'est une histoire de meurtre, d'enfance, de désir et de fantasmes, c'est une histoire de rêve, de cauchemar, c'est une fable sociale, ah, ce film. Ouais. Moi, je trouvais que c'était intéressant, quand même, vraiment, pour un premier long métrage. Elle s'en sort très bien, Tatiana Becquet-Genel.
Et on va écouter la bande-annonce de Cérémonie secrète tout de suite.
Oui, oui.
Cher Maxime, comment allez-vous? Vous êtes un de mes plus anciens amis, vous savez.
Je suis tellement heureux de revoir cette maison. Avant... il y avait un monde ici, des musiciens, des représentations théâtrales.
Bonsoir Rachel, celle qui s'est suicidée cette nuit dans l'enceinte de la maison d'arrêt.
Allô maman, elle est morte.
Pourquoi tu payes l'enterrement d'un monstre?
Tu es devenue mon obsession.
Je suis votre avocate.
Bon, je suis ici pour vous aider. Alors le mieux c'est de me raconter l'histoire.
Je l'ai désiré. C'était plus mes bras, c'était plus mes mains.
Ça a duré
longtemps. J'ai l'impression que ça dure encore.
Quand j'étais petite, je passais souvent devant un château.
Je rêvais.
Un jour, j'ai pris un bidon d'essence et un briquet.
Dépravation, des œuvres.
Mais elle n'a rien d'exceptionnel, ta cliente.
Ton amante, peut-être. Tu me dégoûtes. Je veux que tu quittes ma maison. Je déteste tout ce que tu es, tout ce que tu représentes.
Nous voulons rétablir l'ordre des choses, la place de chacun. Beaucoup sont prêts à implanter les abîmes de la turpitude. Me trouver devant la déchéance et la perversité me tuent.
Merci, Maxime, pour ces mots.
Voilà la bande-annonce de Cérémonie secrète. Et maintenant, nous allons retrouver La Ruche de Blerta Bacholi. Alors, est-ce qu'on parle d'abeilles dans ce film ?
Tu t'es posé la question comme moi quand j'ai lu le titre. Ah, on va voir. Alors, ça dure 1h23, c'est un drame. Alors, c'est Kosovo, Suisse, Albanien, Macédonien. Voilà, ah, beaucoup de gens s'y sont mis aussi. On a Blerta Bacholi, oui, c'est une réalisatrice, scénariste, directrice de casting. Elle est yougoslave, elle a 32 ans. Alors La Ruche a eu 3 prix au Cinéma du Monde, Festival Sundance, Montpellier 2021, et c'est un premier long métrage également. Alors, c'est quoi cette histoire ? Le mari de Farige est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également confrontée à d'importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Farige a lancé une petite entreprise agricole. Mais dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d'autres femmes ne sont pas vues d'un bon œil. Farige lutte non seulement pour faire vivre sa famille, mais également contre une communauté hostile qui cherche à la faire échouer. C'est ça La Ruche, c'est la famille, c'est cette entreprise agricole pour nourrir la famille. Alors, dans les rôles, on a Gachi Iluka qui joue le rôle de Farige. Ce sont des acteurs yougoslaves. On a Kun Lashti. On a Orita Agushi. On a Kumi. Alors là, je ne savais pas trop. C'est Kumir Oksia. Hein, ce n'est pas très facile à prononcer. Là, je vais me mettre au yougoslave, c'est promis. En tout cas, ce sont des gens qui sont connus chez eux, en Yougoslavie. On est content de les avoir là sur un premier long métrage. Alors, l'histoire est inspirée d'une histoire vraie. Hein. Elle a d'ailleurs, Blerta Bacholi a dû faire des allers-retours pour concevoir ce film. Elle a parlé à la vraie Farige Oti et elle a imaginé comment être à sa place. Elle nous dit que j'ai dû creuser très profond dans les émotions et les expériences qui pouvaient me rapprocher d'elle. Et en même temps, j'ai essayé de me mettre à la place du public international qui a besoin de comprendre et de ressentir sans qu'on ait à trop expliquer. Alors la vraie Farige Oti, elle est née en 1969 dans la ville de Djakova. Elle a travaillé comme couturière tandis que son mari Bashkim Oti, père de leurs deux enfants, travaillait à l'étranger pendant 3 ans. À cause de la guerre et de leurs emplois respectifs, Farige et Bakshkim, les deux époux, n'ont vécu ensemble que 6 ans sur les 9 années qu'a duré leur mariage. Et puis la vie de famille de Farige s'est arrêtée en 1998 quand les forces paramilitaires occupent les villes de Prizren. Voilà, donc elle s'est retrouvée toute seule. Et donc, pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle a fondé la société Krusha, dirigée entièrement par des femmes. Elle emploie quand même environ 50 femmes, hein, la plupart d'entre elles étant des veuves de guerre. Elle fabrique et vend des conserves artisanales de purée de poivrons rouges. C'est un mets qui est très populaire dans les Balkans. Et sur plus de 28 marchés dans les grandes villes du Kosovo. Elle vend également à l'étranger, comme en Suisse, par exemple, depuis 2014. Elle n'a plus revu son mari, la vraie Farige Oti, depuis sa fuite forcée pour l'Albanie. Ça fait maintenant 20 ans que la guerre est finie et elle le cherche toujours. Avec d'autres hommes et jeunes gens, son mari Bakrim fait partie de la liste des disparus de cette guerre qui a fait plus de 10 000 morts. Voilà, donc elle a Blerta Bacholi, la réalisatrice, a trouvé, pour incarner Farige, c'était pas évident, elle a trouvé donc Ilka Kashi, cette actrice, c'est une comédienne qui est connue au Kosovo. Elle l'avait déjà fait travailler d'ailleurs sur un court-métrage. Et elle était tout à fait contente de pouvoir la rappeler, de pouvoir la voir dans son film. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a pu écrire le scénario après avoir rencontré la vraie Farige, qui a une vie quand même assez terrible. Alors, La Ruche, c'est la première coproduction entre le Kosovo et la Suisse. Ah, donc c'est bien. Dans toutes les tragédies, les grandes tragédies de l'histoire, se joue un trauma transgénérationnel avec beaucoup de non-dits qui se transmettent de génération en génération. Mais ici, au Kosovo, nous dit la réalisatrice, il semble que vous essayiez de travailler sur ce traumatisme, de ne pas le laisser aux nouvelles générations et de ne pas leur laisser justement le poids du fardeau. Très, très beau film. Un premier long métrage prometteur. Je voulais absolument en parler. La Ruche.
La Ruche, donc, qui a retrouvé dès aujourd'hui au cinéma. Et un dernier film qui s'appelle Firestarter de Case Thomas 2.
Oui, mais oui, ça c'est ça c'est un thriller, il y a du fantastique, c'est de l'épouvante et de l'horreur, c'est américain. Il y a un avertissement, des scènes, des propos et des images peuvent heurter la sensibilité du spectateur. Et tu as dit Case Thomas 2, oui, réalisateur, scénariste américain, il est producteur également. Alors on lui doit, il est surtout connu d'ailleurs, pour The Vigil, le film qui est sorti en 2020, là, qui a eu 5 nominations au Festival du film fantastique de Gérard Mer. Et c'est un long métrage horrifique au concept basé sur la religion juive. Il y avait Dave Davis dedans, Lynn Cohen. Et c'est un film qui a très, très bien marché un peu partout. Et il est connu grâce à ce film dans le monde du cinéma, Case Thomas, précisément. Et là, donc là, on a quoi là ? Eh bien, on a Audrey, c'est l'histoire d'Audi et Vicky, les parents qui ont déménagé constamment depuis plus de 10 ans afin d'échapper à une agence. C'est un couple, en fait, qui tente désespérément de cacher leur fille Charlie à une agence fédérale obscure qui veut exploiter son don pour transformer le feu en arme de destruction massive. Son père lui a appris à désamorcer son pouvoir, mais pour Charlie, le feu devient de plus en plus difficile à contrôler. Et lorsque l'agence, cette fameuse agence fédérale, découvre le lieu où Charlie et ses parents séjournent, un mystérieux agent est envoyé pour traquer la famille et enlever Charlie. Mais cette dernière ne compte pas se laisser faire. C'est une histoire quand même assez terrible. Alors on a Ryan Kira Armstrong qui joue le rôle de Charlie. Alors elle, on l'a vu dans un film inspiré de Stephen King qui s'appelle Ça. Et c'était dans le chapitre 2 où on l'avait vu, cette actrice, Ryan Kira Armstrong. On a également Zac Efron qui joue le rôle d'Andy. Alors lui, Andy, c'est le père de Charlie. Il est très connu, Zac Efron, on le reconnaît. Hein. Dès qu'on le voit, on a peut-être oublié son nom, mais dès qu'on le voit, et si on est habitué au cinéma, on le reconnaît. On a Sydney Lemon aussi, qui joue Vicky, la maman de Charlie. On a Kurt Wood Smith, qui est connu aussi, lui. Pareil, on le reconnaît. Et on a Gloria Ruben dans les rôles principaux. Le film, en fait, est tiré du roman Charlie, de Stephen King. Hein. Si vous l'avez déjà lu, peut-être. Peut-être le lire avant. Il se vend en livre de poche. Hein. Avant d'aller voir le film, peut-être, finalement. Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, en fait, le Firestarter, c'est-à-dire Charlie, avait déjà été adapté en 1984. C'était Drew Barrymore qui jouait le rôle de Charlie. Donc là, elle est remplacée par Ryan Kira Armstrong, qui est assez extraordinaire, d'ailleurs. Un très très beau film de thriller, épouvante, horreur, mais très très bien fait, quoi. 1h34, je sais pas si je l'avais dit. Elle a Charlie, la petite Charlie a 11 ans, hein, ainsi que l'actrice d'ailleurs, dans cette histoire. C'est une enfant de 11 ans. Voilà.
Firestarter, donc c'était la fin des cinémas de fiction. Et maintenant, oui, tu nous proposes 3 documentaires, dont le premier de Charlotte Silvera, qui s'appelle « Lettre à l'enfant que tu nous as donné ».
Oui, 1h24, documentaire français, tu l'as dit, Charlotte Silvera, réalisatrice, scénariste, adaptatrice française, 39 ans de carrière, 14 tournages dont 5 longs-métrages. Oui. Alors, en juin 2011, elle a réalisé un film qui s'appelle L'Escalade. C'est un thriller qui dure 1h20, qui a eu une nomination au Festival international du film des femmes de Créteil en 2011 et le Grand Prix du jury. C'est l'histoire de 4 lycéens qui affrontent leur proviseur. Et donc, qui a été récompensé, qui était un excellent film, hein, L'Escalade. Et là, ce documentaire, c'est quoi ? Ben, c'est comment protéger notre lien avec les jeunes. Ça, c'est une question. C'est la question, d'ailleurs, à laquelle le film tente de répondre en s'adressant directement à eux par une voix off. Le film restitue des pans entiers de notre actualité et de notre histoire dans une mosaïque de séquences de fiction et d'animation, d'extraits de films, de prises de vue smartphone et d'une quantité considérable d'archives. Il a des retours sur des grandes conquêtes politiques et sociales que bien souvent les jeunes méconnaissent. Afin d'inciter les jeunes à mesurer l'importance des lois, l'enjeu de la démocratie et de les pousser à l'engagement jusqu'à combattre l'abstention. Non, je trouvais que c'était quand même intéressant ce documentaire de Charlotte Silvera, Lettre à l'enfant que tu nous as donné.
Et un autre film documentaire de Xavier Gaillan, cette fois, qui s'appelle Roland Gory, Une époque sans esprit.
Oui, documentaire français d'1h10. Xavier Gaillan, réalisateur scénariste français, il a 47 ans, 4 tournages à son actif, des documentaires. Il a également réalisé des courts-métrages. Il a eu une activité théâtrale aussi assez importante. Et là, aujourd'hui, ben, nous vivons dans un monde où la rentabilité s'applique à tous les domaines. Les lieux dédiés aux métiers du soin, du social, de l'éducation, de la culture, ainsi de suite, sont gérés par des managers, ou par des experts aussi, pour qui seuls comptent les chiffres, niant les besoins humains. Roland Gory, il a 79 ans, c'est un psychanalyste, un professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille. Il se bat depuis des années contre le délitement de notre société. Alors ce film est un portrait de sa pensée, de son engagement, c'est un portrait intime de Roland Gory, accompagné de témoignages de ses éditeurs. Il y a Sophie Marinopoulos, il y a Henri Trubert. Il y a également la philosophe et académicienne Barbara Cassin. Il y a le médecin hospitalier et auteur Marie-Josée Del Volgo. Et il y a également le directeur du théâtre Tourski à Marseille, Richard Martin, qui donc interviennent dans ce film. Voilà. Il avait en fait, Roland Gory avait entre autres, il avait co-initié avec Stéphane Chédry l'appel des appels pour nous opposer à cette casse des métiers et à la marchandisation de l'existence. Roland Gory, une époque sans esprit. Je trouvais que c'était quand même assez intéressant.
Et pour terminer, c'est Jean-Pierre Larcher qui a réalisé Juste avant la nuit. Tiré Michel Bouquet. Alors, on en a parlé il n'y a pas longtemps.
On revient. Ah oui. Oui, il a une participation dans un des films. Là. Juste avant la nuit, Michel Bouquet. Bon, je rappelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, 1925-2022, 96 ans, 74 ans de carrière, 79 tournages, 4 prix, 8 nominations, Michel Bouquet. Et Jean-Pierre Larcher, tu l'as dit, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, producteur français, 7 ans de carrière, 2 tournages, un court-métrage en 2012, Le temps des Lucioles, qui a très très bien marché d'ailleurs. Et là, c'est au rythme des marées, isolé dans un hôtel face à la mer, Michel Bouquet voit ressurgir les œuvres et les pensées des plus grands auteurs de théâtre et de cinéma du XXe siècle, des êtres qui ont jalonné sa vie et formé sa pensée. Le réel pour lui s'est évanoui, il n'y a plus que la fiction qui compte. Durant ses jours, face à la mer, il va nous livrer les vérités d'un acteur hors norme qui fut la référence des grands auteurs du théâtre de l'absurde, Pinter, Ionesco, Strindberg, Camus, etc. Durant ses nuits de naufrage, c'est le crépuscule de sa pensée qu'il conjure. Il nous dit, il nous lit un extrait de Juste avant la nuit. Durant ces nuits de naufrage, tous les grands auteurs ont des conversations insensées, toutes les nuits, à discuter entre eux, à travailler comme des dingues dans un autre monde. Ils parlent entre eux après une représentation théâtrale où ils ont été présents. C'est la vie de l'esprit qui est en jeu, ça mérite le respect, ça mérite qu'on se sacrifie. Voilà, un extrait de Juste avant la nuit de Michel Bouquet. Alors pour ceux qui étaient fans et qui sont toujours fans de Michel Bouquet, puisqu'on pourra le revoir dans un tas de films et probablement dans des pièces de théâtre qui repasseront de temps en temps à la télévision, eh bien, il est pour vous, hein, ce documentaire, absolument. Il dure 35 minutes. C'est passionnant. Si on aime cet homme-là, c'est passionnant. Voilà.
Donc, c'est Juste avant la nuit, Michel Bouquet. Et bien, voilà, oui, pour les sorties de la semaine, fiction ou documentaire. Oui. Il y en a toujours proposé par Anne. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi, Damien, aussi. Hein. Merci d'être là. Merci pour les bandes-annonces, quand même. Sans toi, il n'y aurait pas de bandes-annonces. Et donc, et merci, mes chers auditeurs, mes petits chéris. Voilà, merci d'être là pour nous. Et puis surtout, ben, passez une bonne semaine. Hein. Soyez heureux, voilà, le plus possible. Profitez bien de la journée qui passe, du matin au soir. Profitez-en un maximum. Et puis bon, bah, pensez à vous, voilà, hein, soyez bien prudents toujours, après tout, pour vous, pour votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous.
Silence.
Yeah, you